18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez bien, c'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1. Alors pour cette semaine, on vous propose des quotidiennes consacrées aux élections législatives qui arrivent à grands pas, hein, puisque le premier tour a lieu ce dimanche 30 juin. Et puis bah, pour la première de la semaine, on a avec nous autour des micros, non pas quatre, mais deux assos brestoises. On a Ellie des Détraqueers, bonsoir.
Bonsoir.
Et on a Bénédicte de Brest-la-Trans. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous déjà. Et puis bah, on va commencer par faire, si vous voulez bien, un petit retour sur la Pride de samedi, qui était certes tout en couleurs, mais très très généreuse en revendications. Qui veut nous en parler un petit peu de cette super Pride?
Vas-y,
Ellie.
La marche des fiertés de Brest donc a eu lieu effectivement samedi dernier. On était très très nombreux et nombreuses à marcher dans la rue ce samedi, malgré une météo, je dois dire, un peu mitigée.
C'est vrai.
Mais non pluvieuse, donc en fait, finalement, c'est une bénédiction, on va dire. On était environ 5000, selon nos estimations, à marcher. C'était effectivement dans un contexte particulier qu'elle s'est déroulée, cette marche des fiertés. On avait choisi en décembre dernier un mot d'ordre qui parlait d'antifascisme, qui parlait de lutte contre le fascisme. Et en fait, ce mot d'ordre s'est révélé tristement actuel au regard de ce qui se passe actuellement en politique en France. Donc, il y avait quelque chose, c'était un peu doux amer. C'était un moment joyeux, c'était aussi un moment très furieux.
Ouais. Et puis, pour parler un petit peu de vos assos respectives, quelle est votre situation actuelle? Enfin, comment est-ce que vous fonctionnez actuellement dans vos assos? Par exemple, pour Brest-la-Trans, Bénédicte?
Nous déjà on est une asso qui est assez jeune, on s'est constitué au mois de septembre l'année dernière et on fonctionne sur quelque chose d'assez horizontal d'un point de vue hiérarchique où chacune qui vient et qui adhère à l'association peut venir et apporter des idées sur la table pour des projets, pour pouvoir réussir à lier les personnes trans et réussir à créer une communauté au sein de la ville de Brest et alentour.
Ok, et pour les Détra Queers, c'est à peu près pareil?
Nous, on existe depuis un petit peu plus longtemps,
ouais.
On a plus de 5 ans désormais. On est une association collégiale, donc du coup, effectivement, on a un fonctionnement sans présidence, avec un conseil collégial auquel tous les adhérents ont voix. On est effectivement aussi une association où chaque personne qui a une envie ou une énergie peut venir la donner et la prendre plutôt. On a une particularité quand même qu'on accueille énormément de personnes exilées LGBTQ+, donc avec des problématiques un peu spécifiques et un besoin de soutien un peu particulier.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans vos assos respectives?
Alors, la difficulté qui est un petit peu constante à toutes les associations, peut-être pas toutes, ceci dit, Brest-la-Trans n'a pas forcément le même retour, mais c'est de trouver des bénévoles en fait. On a beaucoup de personnes qui viennent avec des demandes de soutien, mais assez peu de personnes finalement qui ont de l'énergie à donner pour les accompagnements et les soutiens. Mais on en trouve et on a beaucoup de gens qui ont énormément d'énergie, c'est juste que le travail bénévole, en fait c'est un travail bénévole, donc les gens ont aussi leur existence et leur vie. Et on ne peut pas rémunérer un salarié, donc on a un peu cette limitation-là. Niveau financier, on se débrouille plutôt bien. On a quand même une municipalité qui est assez soutenante actuellement. Et je vais laisser Bénédicte
pour Brest-la-Trans et ses difficultés.
Nous, c'est vrai qu'on n'a aucune difficulté d'un point de vue de bénévole parce que depuis qu'on a créé l'association, il y a de plus en plus de gens qui viennent. C'est trop chouette parce que du coup, il y a énormément d'énergie qui arrive. Je dirais que, et là aussi, ça rejoint la majorité des associations LGBTQIA sur le territoire, c'est qu'on n'a pas de local, à proprement parler. On fait, quand on fait des réunions, des groupes de parole, ou n'importe quoi qui nécessite d'avoir une salle, on est obligé de faire des emprunts, de demander des prêts avec la mairie, etc. Bon, heureusement, comme le dit Ellie, la mairie est plutôt arrangeante à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un local dans lequel on pourrait stocker nos affaires sur le long terme, etc. Et c'est pour ça, heureusement, que l'association Passage, qui s'est créée l'année dernière, dont Ellie fait aussi, est aussi membre du conseil d'administration, a été créée. Et du coup, il y a des pistes, en tout cas, pour que prochainement, d'ici 2025, si j'ai bonne mémoire, un local pour que les différentes associations LGBTQIA+, et un local pour pouvoir faire leurs réunions, quelque chose de plus pérenne que juste des salles de réunion prises sur le court terme.
Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et ben, on le disait en intro, ce dimanche aura donc lieu le premier tour des législatives. Et puis on l'a vu un petit peu partout dans le pays, les assos féministes et queer ont appelé à la création du nouveau Front populaire. Sans ce rassemblement des partis de gauche, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de faire face à l'extrême droite ?
Non. Ouais. Non, je ne pense pas qu'actuellement la gauche en France est extrêmement éclatée. On a aussi une grande part de personnes qui ne vont pas aller voter, en tout cas qui n'ont pas cette habitude du vote. Je pense que sans ce rassemblement, il n'y a pas de contre-pouvoir.
Oui, tu parles d'abstention. Certaines personnes ont des idées de gauche, mais ne votaient pas à cause, par exemple, de la dispersion des partis de gauche. Est-ce que grâce à la création du nouveau Front populaire, vous espérez que ces personnes-là seront plus enclines à voter ?
Je ne sais pas si je parlerai de plus enclines. Je pense qu'il y a des personnes qui refusent de voter par rejet d'un système. Ce que je peux entendre et comprendre, parce que je trouve que le système dans lequel on est, la démocratie dans laquelle on est censé être, a quand même ses limites et on les a touchées cette année très 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 violemment. Je le comprends et en même temps, là, on se retrouve face à un mur. Je trouve qu'il y a un mur de haine auxquelles des vies vont se confronter, et probablement de manière extrêmement brutale. Donc je ne peux qu'appeler ces personnes-là juste faire cet effort cette fois. Je pense aussi qu'il y a énormément de personnes qui vivent en France, mais n'ont pas le droit de vote en France. Et ces personnes-là, elles ont le droit d'avoir une voix aussi, donc j'appellerai peut-être chaque personne qui refuse de voter pour elle, de voter pour ces personnes-là, aller prendre la voix de quelqu'un qui n'en a pas.
Et sur le site de l'asso amiennoise, je ne sais pas si vous connaissez Flash or True Colors, ça vous dit quelque chose ? Et il est dit, je cite, sur les 9 votes organisés au Parlement européen sur les questions LGBTQIA+, le RN et Reconquête, ont voté contre les droits des personnes queer à 8 reprises. Donc 8 fois sur 9. Donc vous retrouverez sur le site les détails de ces votes. J'imagine que c'est une réelle peur que de voir l'extrême droite abroger des lois pour lesquelles vous vous êtes battu. Je pense là maintenant au mariage pour tous autorisé en 2013, c'est vraiment une réelle peur.
Oui, tout à fait, surtout quand on se souvient qu'il y a toujours un projet de loi qui est en cours, posé par les Républicains, sur les droits des mineurs trans à pouvoir suivre une transition médicale et à l'interdire. Et en plus, à pousser ça jusqu'aux personnes trans qui ont jusqu'à 25 ans. Et bon, enfin, l'objectif final, c'est de faire en sorte que les personnes trans n'aient plus le droit de transitionner. Et ça, encore une fois, ça va juste... Si ce projet de loi se concrétise, y a plein de gens qui... ça va être extrêmement violent, encore une fois, pour énormément de personnes, et en particulier pour des jeunes. Moi, je me souviens de moi quand j'étais jeune et que je n'avais aucun savoir de qu'est-ce que c'était qu'une meuf trans ou un mec trans, etc. Et maintenant, je suis fier de pouvoir prendre mes ostros et je suis heureuse. Mais j'ai envie que mes jeunes adelfes qui ont entre 16 et 18 ans, ils aient les mêmes droits que moi, quoi. Voire plus.
Ouais. Et avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de faire une petite pause musicale un peu énervée avec ces Mr. Love Band des Lambrini Girls. Vous me direz ce que vous en pensez. Let me buy
safe space. I'll make you feel loved and slowly take it all away. You don't need a job. It's making you unwell, but you can come live with me. And I'll make it all better. It works on you because you're out with your friends. After everything I've done, I'm fucking ungrateful. I dare you say you're scared, so I'm fucking internalizing. You're lucky, I love you. If you leave, you have nothing.
C'était Mr. Love Bomb des Lambrini Girls sur Radio. Vous écoutez toujours C'est vous qui le dites, votre quotidienne d'infos. Et nous sommes avec les assos Brest la Trans et les Détraqueurs pour parler des élections législatives et tout ce qu'elles impliquent. Et puis moi, je vais nouveau reprendre avec une citation. C'est le collectif Nous Toutes qui avait écrit que pour les femmes, les personnes LGBTQIA+, les enfants et les groupes marginalisés, l'accession au pouvoir de l'extrême droite le 7 juillet ne se résumera plus à des enjeux de droit, mais bel et bien de survie. Pour vous aussi, ce combat va dépasser complètement la quête des droits ?
Totalement.
Absolument. On est sur, on est sur un combat de vie. Je pense que Nous Toutes l'a hyper bien résumé. Dans tous les pays où l'extrême droite a été au pouvoir, les droits des personnes LGBTQ+, et des femmes, des personnes exilées, ont régressé au point de mettre en danger des communautés qui étaient déjà marginalisées. Donc on sait que là, le combat qui se mène, il est hyper, hyper, hyper important pour nous.
Et si l'extrême droite passe au pouvoir, est-ce que vous avez déjà pensé à des actions afin d'espérer conserver les droits que vous avez acquis et pour lesquels vous êtes battu ? Est-ce que vous avez déjà dû réfléchir à ça ?
Oui, complètement. Enfin, je sais qu'on va devoir composer avec de nouvelles modalités d'existence en tant que, déjà en tant que collectif, en tant qu'association. On sait que les financements d'État s'arrêteront. On sait aussi que tous les financements culturels sur des sujets qui portent de près ou de loin à l'égalité des genres seront définancés. Donc on s'est déjà préparé à ça. On a aussi conscience qu'on a un pouvoir. On est nombreux et nombreuses, on n'est pas juste des victimes ou juste des survivants, survivantes. On est aussi des personnes qui avons une voix et on n'arrêtera pas de la faire entendre.
Et si au contraire c'est le Front Populaire qui est élu, quelles sont les premières mesures que vous voudriez mettre en place pour les personnes de la communauté queer?
La simplification du changement d'état civil pour les personnes trans.
Ouais.
Clairement et simplement. Parce que ça c'est... Je repensais à Macron qui disait que c'était ubuesque et moi ça me fait doucement marrer parce qu'ils se rendent vraiment pas compte de ce que c'est aujourd'hui que de changer d'état civil.
Ouais.
Pour l'avoir fait il y a pas si longtemps que ça, se retrouver toute seule devant un juge, un greffier et un procureur pour faire valoir son droit de dire que je suis une femme, c'est tout un délire. Alors que juste arriver en mairie, demander un document CERFA, le remplir et ensuite le faire tamponner pour que tu puisses faire changer ta carte d'identité derrière, ça simplifie beaucoup de choses. Enfin,
ça n'a rien d'ubuesque.
Voilà, ça n'a rien d'ubuesque. Ça simplifie tout, que ce soit pour l'administration et pour les personnes concernées.
Et selon vous, est-ce que la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, est toujours d'actualité ?
Oh !
Oula !
Ouais. On pose des vraies questions. Je pense que l'état de droit a régressé. Je pense qu'on est dans une politique de non-accueil des personnes exilées depuis bien longtemps et que cette année a marqué le tournant, un tournant très répressif dans la question de... C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la question de l'accueil, ou plutôt du non-accueil qu'on peut faire aux personnes étrangères. Actuellement, on est dans une république où notre président use et abuse de tout par tous les moyens qu'il peut de son autorité, où il a une politique militariste, où il a aussi un discours nataliste hyper préoccupant qu'on n'avait quand même pas entendu depuis Vichy quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on a le réarmement démographique, c'est quand même pas rien comme termes qui ont été utilisés. On les a oubliés avec tout ce qui s'est passé, mais moi je les ai pas oubliés. Non, je pense qu'il serait temps en tout cas de repenser à ce que ça signifie ces mots. Qui est réellement libre dans ce pays? Et quelles sont les classes qui ne le sont pas? Et je pense qu'il est temps qu'on se pose les questions sur la manière dont on accueille les personnes aussi qui viennent ici dans l'espoir de trouver une vie meilleure et qui trouvent finalement un pays de non-droit.
Et toi, Bénédicte, t'en penses quoi de cette devise? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité pour toi?
Clairement pas. Clairement pas. Parce que l'égalité... Quelle égalité, au final, quand on voit que je ne sais plus combien du pourcentage des plus grandes puissances de ce pays ont tout, alors que on est tout le reste à galérer à finir nos fins de mois, à bouffer des pâtes, enfin bref, qu'on soit étudiant ou qu'on soit ouvrier ou demandeuse d'emploi, enfin c'est la galère. Et bon, sur la fraternité, bon. On est tous en mode plutôt la delphité, hein.
C'est beau. Et en tant qu'asso aujourd'hui, de quoi concrètement vous avez besoin? Par exemple pour les Détra Queers.
Alors, il y a des choses dont on a besoin qui sont réalisables, et puis après il y a des utopies. Nous, comme je vous le disais, on accueille énormément de personnes qui sont extrêmement vulnérables, que ce soit des personnes exilées ou des personnes non exilées qui sont dans des problématiques de handicap, qui sont dans des problématiques de rupture familiale très importantes. Et dans un monde idéal, l'État mettrait les moyens pour accompagner ces personnes. Et on ne se retrouverait pas à bricoler en permanence, que ce soit avec des travailleurs sociaux qui sont sursollicités et qui sont définancés et qui sont épuisés, ou avec des administrations qui ne sont pas du tout faites pour les personnes qui ne parlent pas français, ou pour les personnes qui ont du mal avec les réseaux, enfin, avec la dématérialisation, qui n'ont pas le matériel nécessaire pour remplir les formulaires en ligne. Ça, dans un monde idéal, on aurait des moyens pour ces personnes, et ce ne seraient pas des bénévoles de plancher avec des travailleuses burn-outées pour essayer de bricoler quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est dans un monde idéal. Dans un monde moins idéal, un petit peu de monde ne serait pas de trop, oui. Même si on est une bonne équipe et qu'on a plein de gens autour de la table qui ont envie de donner l'énergie, c'est toujours appréciable. Un peu de joie aussi, parce que ça fait toujours du bien.
Bah, on est bien d'accord là-dessus. Et pour Brest-la-Trans, de quoi vous avez besoin concrètement aujourd'hui?
C'est bête, mais j'ai envie de dire que quand n'importe quelle personne trans va se pointer, que ce soit dans un service de fonctionnaire ou quoi, cette personne ne se fasse pas mégenrer, du coup que les personnes au guichet soient un peu plus familiarisé avec la question de la transidentité. Mmh. Et pour éviter certaines violences qui sont récurrentes et systémiques pour les personnes trans, et qui leur permettraient de traverser plus facilement la journée, et aussi leur parcours de transition qui est déjà bien difficile.
Eh ben, notre petit moment sur les ondes touche bientôt à sa fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs et auditrices? Un petit mot de la fin de la part des Détra Queers et de Brest-la-Trans.
Donnez de votre voix. Là, actuellement, on n'est plus... J'ai entendu une citation intéressante qui est « on s'engueulera après ». Je le pense sincèrement, on s'engueulera après, plus tard. On aura le temps de parler des fondations de nos convictions politiques. Là, je pense qu'aujourd'hui, on est face à une situation qui est gravissime et qui doit absolument se résoudre en notre faveur.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bénédicte et Élie, pour parler des élections qui arrivent. Et puis, ben, avant de se quitter, chers auditeurs et auditrices, je vous propose d'écouter un épisode, si je puis dire, de la série commune Radio Campus France intitulée « Ça arrive près de chez vous ». Et le reportage qu'on va écouter aujourd'hui a été réalisé par Anaëlle de Radio Phoenix à Caen et donne la parole à Alma, membre active de l'asso Main Violette Caen, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles et ben, qui parle également des prochaines élections.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous. Un programme proposé par les Radio Campus.
Ça arrive près de chez vous. Comment vont celles et ceux qui donnent vie à votre territoire ?
Je suis Alma, membre actif de Main Violette Caen. Nous sommes une association qui a été créée il y a maintenant plus de 2 ans. Nos actions portent essentiellement sur la lutte contre les violences sexuelles. On peut citer par exemple la création du hashtag MeTooViol Conjugal, une page qui relie des témoignages, une exposition, ne serait-ce que sur le viol conjugal spécifiquement, parce qu'on s'intéresse effectivement aux problématiques de violences sexuelles dans les milieux festifs, mais pas que. On organise également des événements, en tout cas on essaye d'organiser des événements en collaboration avec d'autres associations et organisations féministes, qui donc luttent chacune à leur manière pour les problématiques féministes, notamment dans ce qui nous concerne davantage les violences sexuelles. Et donc une de nos principales activités au quotidien depuis maintenant 2 ans, c'est d'accompagner et de recevoir la parole des personnes victimes de violences sexuelles. Dans le milieu universitaire, mais pas que, on a prévu et c'est un parti pris de ne pas se limiter aux personnes étudiantes à l'université, parce qu'on sait très bien que les victimes ne se limitent pas à l'université. Elle ne se limite pas non plus au milieu festif, elle ne se limite pas à la sphère conjugale. C'est tout ça à la fois, et donc on essaye, avec les moyens qu'on a, de lutter contre tout ça, et en essayant d'être là pour toute personne qui a besoin. Alors, de manière générale, les problèmes auxquels on fait face, je pense, c'est tout simplement un manque de moyens. On est une association avec pratiquement 0 moyens, c'est-à-dire qu'on n'a aucune subvention. Très schématiquement, on survit avec la vente de gâteaux de temps en temps et de t-shirts, par exemple, donc le t-shirt avec la main violette. Donc, la plus grande, de manière générale, on est totalement débordé parce que des violences sexuelles, malheureusement, il y en a partout et tout le monde est concerné, en tout cas parmi nous, et les personnes qui viennent nous voir viennent de beaucoup, beaucoup de milieux, même si avant tout universitaires encore aujourd'hui. Mais sur la page, par exemple, MeTooViol Conjugal, on est contacté par des personnes qui viennent de toute la France, qui ont tout âge. On a des personnes qui sont des mamans, on a des personnes qui sont même des personnes beaucoup plus âgées, d'autres générations, et qui nous disent en fait, oui, moi aussi, je vis des violences sexuelles, dans ce cadre-là, plus des viols conjugaux, mais c'est pas que. Et en fait, je pense que le principal problème, c'est vraiment ce manque de moyens, essentiellement financiers, évidemment, mais pas que. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, avec sans mauvais jeu de mots, avec nos petites mains, comme on peut, mais la demande est énorme. Et nos besoins sont énormes parce qu'en fait, on fait à la fois de la prévention, notamment par exemple dans les lycées, mais également de l'accompagnement de fond de certaines personnes qui viennent nous voir et qui nous demandent un accompagnement qui n'est pas thérapeutique, évidemment. On n'est pas là pour remplacer des professionnels. Enfin, il y a quand même... ne serait-ce que pour savoir vers qui s'adresser, par qui s'adresser et comment, c'est déjà énormément de temps. Personne n'est rémunéré dans notre association pour le travail qu'on fait, qu'on réalise. Et enfin, évidemment, on participe à des actions diverses pour aussi essayer de toucher d'autres publics. Nous, on est une association qui est en partenariat avec l'université. Et ça peut arriver, effectivement, dans certains contextes, qu'on ait des soucis. Mais qui en même temps est très ambivalent parce que en même temps l'université nous prête un local, donc on a besoin aussi de ça pour pouvoir recevoir des victimes par exemple et pour stocker nos affaires. Donc après en même temps on est très dépendant évidemment hein, de cette université, donc oui, on est clairement dépendant aussi des décisions. À l'échelle de la mairie, c'est très ambivalent là encore parce que faut pas se mentir, on fait le travail aussi de services publics qui sont pas faits au niveau de la prévention, au niveau de la prise en charge, au niveau de la réorientation des victimes, au niveau que ce soit des violences conjugales. Enfin, en fait, on fait un taf, on fait vraiment ce qu'on peut et dans tout ce qu'on voit. Mais en même temps, on travaille parfois avec la mairie. Mais effectivement, on ressent parfois, en tout cas à titre personnel, je ressens parfois une certaine forme d'incompréhension, en fait, parce que quand on fait des formations, on n'est pas payé, par exemple. Quand on fait des ateliers de prévention que ce soit dans le lycée, dans des associations, on n'est jamais payé. Et on est juste des étudiants et étudiantes pour la plupart, à l'université de Caen. Mais c'est... on fait un taf énorme, avec une demande énorme, avec des moyens ridicules. Donc voilà. Et au niveau national, bah, je pense qu'on y est en ce moment. Hein. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que, bah, au niveau national, de base, depuis des années, les féministes alertent de différentes associations sur ce qui se passe au niveau des violences sexuelles dans la sphère conjugale, mais aussi les violences sexuelles que vivent les enfants. Et nous, on se retrouve aujourd'hui à devoir se battre pour essayer de limiter l'arrivée de l'extrême droite, parce qu'en fait, l'extrême droite est déjà là, hein, mais on le ressent déjà de manière générale dans nos rues, dans nos ateliers, mais également dans les idées qui se propagent. Et donc, on en est là, en fait, à essayer de faire comme on peut pour essayer de conserver ne serait-ce que la liberté de pouvoir militer, déjà avec des moyens qu'on n'a pas. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, eh ben, on n'a pas, en fait, ce temps pour continuer nos activités qui déjà, on est déjà débordé. Mais là, on n'a juste pas le temps. C'est-à-dire qu'il y a des victimes qui nous contactent, on ne peut pas leur répondre. Ou alors, on leur répond, on vous répondra plus tard. De quoi avons-nous besoin? Comment on se projette? C'est des questions très difficiles parce que on a tellement besoin de choses et en même temps, on fait vraiment comme on peut. Et aujourd'hui, je peux même pas répondre à comment je me projette à demain, à la semaine prochaine et à dans 3 semaines. Honnêtement, c'est très compliqué. Déjà, de base, on a du mal, on fait comme on peut, on a réussi à s'organiser, à avoir des fonctionnements de plus en plus concrets. Mais vous voyez, par exemple, on avait une formation qui était prévue là, en juillet, pour former, pour la prise en charge des témoignages de victimes de viols conjugaux, notamment. Et une cellule d'écoute de manière plus générale, pouvoir recevoir la parole de la manière la moins maltraitante possible et pouvoir la relayer de la meilleure façon possible. Mais cette réunion ne va pas pouvoir avoir lieu puisqu'on est tous et toutes débordés pour essayer de faire en sorte que l'extrême droite ne passe pas ou ne passe le moins possible. Et donc on est non seulement débordés en tant que militante, mais aussi je pense en tant que femme, et encore je vous parle en tant que femme qui est blanche à l'université, qui est relativement privilégiée, on va pas se mentir. Moi, je suis en contact avec des victimes pour des projets divers et variés, et il y a des victimes qui ont vécu l'enfer, hein, je pèse mes mots, et qui aujourd'hui me disent je ne sais même pas comment je vais faire pour pouvoir ne serait-ce que dire à mes enfants qui ont des prénoms, ne serait-ce que je ne sais pas, à consonance musulmane selon certaines personnes, leur dire que là, on va falloir faire attention, ne serait-ce que quand on dit son prénom. Et pendant ce temps-là, c'est nous. On observe ça et on est tellement débordé qu'on peut pas faire grand chose. Et en termes à titre personnel, c'est quand on est militante, je pense qu'on est aussi surtout des personnes concernées pour la plupart des personnes. Et on a peur en tant que militante, on a peur en tant que femme, on a peur en tant que je saurais même pas comment vous dire, mais un autre exemple très concret, j'ai été contactée à titre personnel par des personnes, par une personne, une journaliste de Public Sénat, pour faire un documentaire qui serait le premier, en tout cas à grande échelle, sur le viol conjugal. Un projet incroyable, parce que Public Sénat, c'est une chaîne très très vue, et qui est notamment vue par des élus. Et elle nous a dit, elle nous a envoyé un mail hier pour nous dire que, en fait, la plupart des producteurs, ça a intéressé, l'ont dit que ça allait pas être possible parce qu'ils ont juste tous peur de la privatisation, et du contexte actuel fait que, en fait, pendant que on est en train de se demander comment faire pour pas que l'extrême droite passe, plus ou moins, ces victimes-là qui déjà n'en peuvent plus, la moindre petite association, comme nous par exemple à Caen, ou plein d'autres, hein, à Caen et ailleurs, on peut même plus continuer notre activité pour les aider, pour les accompagner. C'est ça la réalité, en fait, c'est que c'est déjà en train de se passer, et c'est déjà dramatique, et ça l'était déjà avant, mais là, ça devient quelque chose de complètement lunaire et dramatique. Si j'ai un appel à faire passer, c'est juste faites du mieux que vous pouvez, mais n'oubliez pas que la gauche, elle fait ce qu'elle peut dans ce contexte-là. Il y a énormément de choses à pouvoir reprocher à certains partis, à certaines orgas, on le sait. On se le dit entre nous, mais en fait... Le danger, là, il est concret. Et c'est nos vies qui sont en jeu, et elles étaient déjà avant, mais là, c'est plus qu'une urgence, en fait. Donc, la seule chose que j'essaye de dire, c'est garder espoir, je ne sais pas, mais en tout cas, mobilisez-vous et entourez-vous bien de personnes qui peuvent vous aider à agir en collectif. Voilà.
C'est vous qui le dites, touche à sa fin. Merci à nos invités, Ellie des Détra Queers et Bénédicte de Brest-la-Trans, d'être venus pour cette quotidienne. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés sur les ondes du 101.1. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle quotidienne. Très très bonne soirée sur Radio U.